pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin, Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. Vous allez voir que ces formes, elles ne sont pas forcément végétales. C'est d'ici, de ce jardin historique des Tuileries, collé au musée du Louvre, que nous émettons aujourd'hui en public pour cette série d'émissions pour une ville nature. Cette invitation que nous lance le programme Cité Verte Europe avec le soutien de l'Union Européenne et le relais en France de l'interprofession Valor. Quelques mots sur Valor, de manière simplifiée pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Parmi les alliances entre le vivant et la ville qu'évoquait notre générique à l'instant, la question de l'eau est centrale. Et elle est faite de contrastes. Le premier semestre 2022 nous confronte directement tour à tour au manque de précipitations et à des épisodes pluvieux intenses, pour ne pas dire à des orages violents. La sécheresse marque les esprits et occupe bien des conversations, c'est l'avantage avec la météo. C'est un sujet intarissable. Le déficit de précipitations entre septembre et avril s'élève à peu près à 20% en moyenne, si bien que 2/3 des sols sont secs, à très secs sur le territoire. L'automne, vous vous en souvenez peut-être, a été sec. Décembre, plutôt globalement humide, mais depuis janvier, le déficit de précipitations est de 40 à 80% suivant les régions, ce qui ne permettrait pas de remplir suffisamment les nappes phréatiques. Et 70% des nappes ont un niveau orienté à la baisse, c'est ce que nous indique le Bureau des recherches géologiques et minières. A l'inverse, et le temps, la météo, le jour de l'enregistrement de cette émission en témoigne, nous constatons l'intensité d'un certain nombre d'épisodes pluvieux, très intenses, sur de courtes périodes, telles qu'on le connaît, avec des conséquences parfois dramatiques, comme en début juin à Rouen, avec une personne qui a été emportée et décédée malheureusement à la suite de ces violents orages. Alors le GIEC, le fameux groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, l'a affirmé à plusieurs reprises, et je vais le simplifier ici, le réchauffement climatique entraîne des épisodes climatiques extrêmes, avec, en ce qui concerne l'eau, la recrudescence de périodes de sécheresse et des épisodes pluvieux très violents. En parallèle, les citoyens, les décideurs politiques, les acteurs privés plaident pour plus de nature en ville. Ah, on aime ça, on la plébiscite. Tous les sondages nous le disent, mais elle est souvent réduite dans les imaginaires à un de ses emblèmes visibles, le végétal, sans grande considération pour le sol et l'eau, qui sont pourtant, à minima, ses alter ego. Et nous allons parler dans une autre émission du sol, et notamment de la complexité des réseaux. Alors aujourd'hui, s'agissant d'eau, quelle est ce que l'on pourrait appeler la nouvelle donne de l'eau? Comment adapter la ville à ces changements profonds climatique notamment. Comment concilier les caprices hydriques, si on peut les nommer ainsi, et la green mania, si tant est qu'elle est un nom, en faisant avec le déjà là, pour ne pas dire comment faire avec l'au-delà. Ça n'est pas une question spirituelle, c'est une question pratique que nous allons nous poser et une série de questions. Comment est-ce que l'eau, le sol et le végétal peuvent largement s'allier pour aider nos villes à s'adapter au dérèglement climatique? Ces questions sont nombreuses. Les réponses de nos spécialistes autour de la table seront étoffées et le challenge que nous avons à relever est de tenir tout cela dans une quarantaine de minutes. Attention, sécheresse, risque, inondation, comment faire avec l'au-delà? C'est le thème de notre échange et avant de vous présenter nos intervenants, générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage,
biodiversité,
culture, le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Attention, sécheresse, risque, inondation, comment faire la ville avec l'au-delà? Le thème de nos échanges pour en parler, Marie-Christine Huot, vous êtes directeur stratégie eau et climat de Veolia, administratrice du Conseil international biodiversité et immobilier et cofondatrice de l'association Le Vivant et la Ville. Vous êtes installé à ma droite, à votre droite, Michael Fayot, cofondateur d'UrbaSense, tout dépend si on veut exercer son accent. Exactement. Et à ma gauche, on ne le présente plus, Jean-Marc Bouillon, président du fonds de dotation Intelligence Nature, créateur de Taquet et Conseil et administrateur de l'interprofession Valor. Alors nous allons commencer, et ça n'est pas qu'une galanterie, par Marie-Christine. Parce que Marie-Christine, vous êtes agronome et vous êtes spécialiste de l'eau et en particulier de son ensemble, du grand cycle de l'eau, jusqu'aux solutions techniques locales. Et vous avez une riche expérience de ces sujets, notamment, mais pas seulement, auprès des collectivités. Alors, peut-être une question un peu générale tout d'abord pour celles et ceux qui nous regardent, qui assistent à cette émission ou qui nous écoutent et qui ne sont pas des experts. Comment est-ce que vous pourriez résumer, de manière simple, les grandes composantes du cycle de l'eau ?
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Effectivement, cette question est à la fois simple et complexe. Alors, je vais essayer de la résumer. Mm-hmm. Le cycle naturel de l'eau, c'est finalement quoi ? C'est finalement le voyage de l'eau sur la Terre dans ses différentes composantes et qui peut prendre différentes étapes et différentes formes. Donc ça va depuis les différentes formes que sont les glaciers, la neige, la pluie, les rivières, les lacs, la mer, l'évaporation. Donc tout ça, les gouttes d'eau, tout ça sont les composantes de l'eau. Et finalement, le cycle de l'eau, c'est le phénomène naturel de l'eau, du voyage de l'eau sur Terre. Et j'ai envie de dire, en résumé, pour faire cyclique, eh bien, la mer évapore l'eau et donc la mer va de la mer à l'atmosphère. Ensuite, les pluies permettent d'avoir un parcours de l'atmosphère à la Terre. Et ensuite, le ruissellement et les pluies entraînent le cycle de l'eau de la Terre à la mer. Et ainsi, la boucle est bouclée. Mais bien sûr, ça peut prendre différentes formes et différentes étapes qu'on reverra, je pense, dans le détail. Juste peut-être un point aussi de compréhension, on parle aussi souvent et de plus en plus maintenant donc de grands cycles de l'eau, qui est le cycle naturel des grands réservoirs naturels sur Terre qui circulent entre eux. Mais on parle également de petits cycles de l'eau, c'est-à-dire le cycle domestique de l'eau, c'est celui qui nous permet de vivre, puisque c'est celui qui emprunte au grand cycle de l'eau la ressource pour produire de l'eau potable. Ensuite, nous l'utilisons, elle est acheminée dans des réseaux et des stations d'épuration qui les traitent et ainsi ensuite... cette eau est restituée au milieu naturel et ainsi on a une interaction forte entre petits et grands cycles de l'eau et c'est tout l'enjeu qui est devant nous avec la nouvelle donne climatique.
Je crois que c'est très clair et justement cette nouvelle donne climatique, qu'est-ce qu'elle modifie ou en tous les cas quel dérèglement elle induit dans ces deux cycles de l'eau, que ce soit le grand ou le petit ?
Alors là aussi, pour faire simple et rapide, j'ai envie de dire pour nous, essentiellement urbains et français, j'ai envie de dire il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que la France était en régime tempéré, globalement, avec quatre saisons. Et donc tous nos modèles économiques, agricoles, paysagistes, d'organisation même sociale avec les vacances, les rythmes industriels qui vont de l'école à l'industrie, fait qu'on était autour de ces quatre saisons. Et ben aujourd'hui, je parlerai moi plus de dérèglement climatique et non de réchauffement climatique à l'échelle de la France, pour dire que finalement on rentre dans un dérèglement et qu'on ne peut plus parler de régime tempéré mais de régime déréglé. Et donc ça a une deuxième conséquence, c'est comment on fait pour donc adapter cette imprévisibilité qui nous arrive et ce dérèglement climatique qui fait qu'on va avoir comme aujourd'hui des très gros orages où classiquement on dit c'est pas cette saison-là que ça tombe, c'est plutôt fin août, qu'on va avoir la sécheresse au mauvais moment, au moment de la croissance, notamment végétale et agricole au printemps, qui est la pire des sécheresses, parce que par analogie, si on avait la sécheresse en automne, on n'aurait absolument pas les mêmes conséquences. Et ça va jusqu'à la production de l'alimentation, puisque tout ça est en interrelation. Et le deuxième élément qui me semble important, c'est la ville, puisqu'on est très urbain. Et dans la ville, là aussi, on a composé avec la ville qui s'est posée, si je puis dire, vous l'avez évoqué, sur le sol. Et donc la ville est un obstacle aujourd'hui au cycle naturel de l'eau. Et donc avec ce dérèglement et cette intensité qui s'accentue dans les deux sens, c'est-à-dire trop d'eau en trop peu de temps ou pas assez d'eau sur un temps long, eh bien il va falloir ralentir ce cycle de l'eau. Et c'est là qu'on va revenir aux différentes solutions. Mais il faut bien comprendre effectivement ces deux éléments qui sont vraiment les vecteurs forces de ce dérèglement.
C'est très clair, du régime tempéré au régime déréglé. Je pense que c'est une expression que l'on peut retenir et qui illustre bien la perturbation et notamment la, le dérèglement des saisons et l'occurrence d'un certain nombre d'épisodes climatiques inattendus, au pire moment parfois. Alors, vous venez d'évoquer la ville. Je vais me tourner vers Jean-Marc. Jean-Marc, vous êtes paysagiste concepteur et je n'aurai de cesse de le dire, comme nous l'avons évoqué dans une autre émission, que ce titre est important et vous en êtes d'ailleurs l'un des initiateurs puisque c'est sous votre présidence de la Fédération française du paysage que la loi biodiversité de 2016, je ne vais pas donner son nom en entier, ne gardons qu'un mot il y a déjà quelques années maintenant, c'est cette loi qui a consacré ce titre de paysagiste concepteur et qui le protège et qui en fait aussi toute la valeur. Alors en tant que tel, si je le formule avec mes mots, vous êtes un ensemblier des espaces ouverts en ville. Pas qu'en ville, mais le cadre de notre discussion aujourd'hui, comme l'a rappelé Marie-Christine, c'est bien l'objet urbain. Vous avez notamment développé, en collaboration avec des hydrologues, une expertise assez singulière qui lie l'eau, le sol et le végétal. Et vous avez initié, avec l'interprofession Valor, le fonds de dotation Intelligence Nature, dont vous êtes le président. J'insiste parce que ce terme d'ensemblier, pour moi, est plutôt positif. Nous avons beaucoup d'expertises croisées et elle ne cesse de se spécialiser. Mais nous avons aussi besoin de maîtres d'œuvre en architecture comme en urbanisme ou en paysage qui ont la capacité de comprendre et d'être en interaction avec des spécialistes et d'en faire une synthèse pour définir un projet urbain, ce qui n'est pas une mince affaire, en lien avec des maîtres d'ouvrage publics et privés. Alors Jean-Marc, de votre point de vue, quel est l'état de cette ville ? Marie-Christine a dit que cette ville se posait sur le sol et que c'était une des racines, si je puis dire, du problème. Quelle est votre vision de l'état de cette ville face aux risques liés à l'eau, en lien avec ce dérèglement massif qui ont été évoqués à l'instant ?
Elle est particulièrement exposée, cette ville. Alors, pour reprendre ce que disait Marie-Christine, elle est exposée au dérèglement, elle est exposée aussi au réchauffement. Dans nos régions tempérées, comme on n'avait pas beaucoup de problèmes parce que c'était tempéré, on a plutôt fait une ville ouverte qui s'est d'ailleurs plutôt donnée au soleil puisqu'on avait plutôt tendance à vouloir se protéger du froid en créant du chaud. Et aujourd'hui, on a, alors c'est pas complètement vrai dans le tissu méditerranéen où eux, ils avaient un problème, donc ils ont inventé un urbanisme bioclimatique qui jouait avec la convection naturelle des masses d'air, etc. Ruelles étroites, places ensoleillées pour créer des effets de cheminée, enfin, etc. Nous, dans le reste de la France, c'est plutôt des villes qui sont assez ouvertes. Et ces villes ouvertes doivent aujourd'hui se refermer pour se protéger du soleil, créer de l'ombre, etc. Donc on s'aperçoit que face à cette question, toutes les villes qui ont commencé tôt dans ce sujet se sont aperçues que les solutions végétales étaient des bonnes solutions. Et donc il fallait planter. Mais on s'aperçoit aussi que là, on est frappé de la question du dérèglement et du changement de la disponibilité de la ressource en eau. Et donc, en 96 déjà, la ville de Lyon avait constaté que les arbres remplacés chaque année sur le Grand Lyon, 50% des arbres remplacés chaque année au Grand Lyon avaient moins de 30 ans. Et en 96, il faisait moins chaud, il y en a le droit d'arroser. Donc, que vont devenir les stratégies de végétalisation massive de nos villes pour nous protéger quand il va faire 45 degrés et que les préfets vont interdire d'arroser ? Donc, il faut nécessairement lier l'eau au végétal, d'où l'approche transversale auquel Pierre faisait référence. Et alors là, là aussi, on est mal préparé parce que l'eau dans cette région tempérée tombait à faible vitesse souvent, bien répartie, etc. Et là, on s'aperçoit qu'elle arrive de façon brutale, au moment inopportun, etc. Donc il faut arriver à changer de regard, ne pas oublier que cette ressource qu'on a considérée comme un déchet doit redevenir une ressource, en quelque sorte. Mais c'est une ressource qu'il faut apprivoiser. Et le plus simple, c'est de l'apprivoiser au plus près de l'endroit où elle tombe. Parce que le problème commence à arriver quand on l'additionne. Et quand on additionne l'eau tombée sur une surface avec une deuxième surface, puis avec une troisième, une quatrième, une cinquième, qu'on essaye de faire disparaître le tout dans un petit tuyau qui va aller dans un gros tuyau, etc. Et avec de la vitesse. Et là, on s'aperçoit que derrière ces centaines de milliers de mètres cubes qui se mettent à circuler sous nos pieds quand il y a un orage un peu important, ben, c'est des centaines et milliers de tonnes, finalement, parce qu'un mètre cube, c'est une tonne, et que quand on met des tonnes en dynamisme, ben, ça peut provoquer des choses assez catastrophiques. Et vous avez tous pu constater une différence dans les articles qui parlent de catastrophes naturelles. Avant, quand on disait les violentes tempêtes de la veille ont créé d'importants dégâts, on voyait les toits qui était, c'était le vent, les violentes tempêtes. Aujourd'hui, quand on voit les violentes tempêtes de la veille ont causé d'importants dégâts, c'est le socle urbain qui s'arrache. C'est les enrobés, c'est la terre, c'est le sol, c'est quand même assez catastrophique. Alors, donc la question, c'est, il est à mon avis urgent de changer de regard et de voir si on peut arrêter de considérer l'eau comme un déchet dont il faut un ennemi, l'ennemi de nos constructions, l'ennemi de nos fondations, de nos immeubles, etc., et considérer l'eau comme une ressource essentielle qui va être à la base de toutes les politiques d'adaptation de nos villes au réchauffement climatique à partir de solutions végétales.
Alors, si je vous suis, et peut-être Marie-Christine pourra réagir, on a voulu absolument, à dessein, chasser l'eau de la ville, probablement peut-être pour des raisons hygiénistes, ou alors c'est simplement le fait d'accumuler des surfaces dites imperméables qui fait qu'aujourd'hui, la situation conjuguée à des épisodes climatiques de fortes pluies notamment, fait qu'on arrive à des situations de saturation d'un certain nombre de réseaux, et à l'inverse, dès que l'eau tombe, puisque on a construit un certain nombre de surfaces et d'exutoires pour qu'elle s'en aille, on ne peut pas la retenir. Comment est-ce que vous le formuleriez, vous, Marie-Christine, qui connaissez le sujet de long en large et en travers?
Alors, c'est un vaste sujet à dire en quelques minutes, peut-être juste pour remettre en perspective pourquoi le petit cycle de l'eau domestique a été créé. Mm-hmm. Effectivement, c'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène. On a dit il fallait amener l'eau et faire cheminer l'eau jusque chez l'habitant et le mettre sous maîtrise et sous contrôle. Je rappelle juste que l'eau potable est le produit alimentaire le plus sévèrement contrôlé puisqu'il est contrôlé en temps réel, en permanence, avec des quantités de milliards d'analyses qui sont faites au quotidien sur une soixantaine de paramètres en permanence, ce qui est très différent donc d'un produit alimentaire classique où on va faire un prélèvement dans un échantillon. Et donc ça a été un pari réussi qui a permis aujourd'hui, la France est d'ailleurs en tête leader mondial et fait école dans le monde, puisque 99,8% des gens sont raccordés au réseau d'eau potable et sont également raccordés au réseau d'assainissement. Une fois qu'on a dit ça, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la question de l'interaction entre grands et petits cycles. Il y a eu un parent oublié dans cette équation, c'est les eaux pluviales, donc dites pluviales, c'est-à-dire les eaux qui tombent du ciel, les eaux météorites qui tombent sur le sol et qu'on les appelle dans le jargon du métier les eaux dites pluviales et qui vont s'écouler sur le sol et rejoindre les réseaux ou pluviaux quand c'est séparatif ou les réseaux d'assainissement quand c'est unitaire pour le jargon technique. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il se passe qu'on a construit la ville avec beaucoup d'imperméabilisation pour les besoins qui ont été des choix d'aménagement et qui sont dans l'histoire de notre pays. Comme l'a dit effectivement Jean-Marc, on a étalé la ville ouverte et d'ailleurs dans une politique de mobilité, de grande surface, etc. Donc on a fortement impermisé et on a oublié la fonction sol comme étant la fonction d'infiltration et de circulation de l'eau de pluie pour la tamponner, si je puis dire, et ainsi réalimenter indirectement les nappes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui qui est devant nous, c'est ralentir ce cycle des eaux pluviales, comme on vient de le voir ce matin, pour justement, et c'est ce qui s'est passé également samedi à Rouen, où dès que vous êtes sur une pente imperméabilisée forte, eh bien aujourd'hui, effectivement, il y a danger, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut changer de culture, et s'acculturer, et moi je dis souvent, il faut apprendre à vivre comme si on était en régime cyclonique. Et ce n'est pas un mauvais mot, c'est juste pour acculturer les gens à l'imprévisibilité et à l'intensité de la violence d'un événement. Et lorsqu'il y a un très gros orage annoncé, il est utopique de vouloir aller chercher sa voiture, de vouloir sortir, il vaut mieux laisser passer l'orage. Et donc de rester protégé.
D'une manière générale, dans les relations humaines comme pour la météorologie, mieux vaut laisser passer l'orage. En effet, exactement. Je rappelle que nous sommes le 8 juin, mercredi 8 juin, que nous émettons depuis le Jardin des Tuileries et que ces derniers jours, hélas, il y a eu des épisodes pluvieux très violents, des épisodes orageux et heureusement sans conséquence, que nous avons eu une bonne quantité d'eau qui est tombée ce matin, quelques minutes avant notre enregistrement. Nous sommes en présence de Marie-Christine Huot, directrice stratégie eau et climat chez Veolia, cofondatrice de l'association Le Vivant et la Ville et administratrice de l'association CIBI, avec Jean-Marc Bouillon, qui est paysagiste concepteur, président d'Intelligence Nature, et il l'incarne à lui tout seul, vous le voyez bien. C'est une boutade. Et puis enfin, Michaël Fayot, cofondateur d'UrbaSense. Là, on a posé le constat. On va rentrer dans les solutions avec cette fameuse notion d'infrastructure verte, mais je voudrais que nous entendions Michael, déjà parce qu'il ne s'est pas exprimé pour le moment, et puis aussi parce que UrbaSense développe, on va le dire de cette manière, une série de solutions pour aider les acteurs de la ville et du paysage déjà à mieux connaître l'existant, l'état du sol, de l'eau et son interaction avec le végétal. Les agronomes se souviendront pour toujours du SPAC, le Soil Plant Continuum Atmosphere, Soil Plant Atmosphere Continuum, voilà. Je l'ai raté, je l'avais répété pourtant, mais ça n'est pas passé. On n'était pas loin. Alors, Michael, vous allez nous présenter en quelques mots vos activités et on salue Thomas Bure, votre associé. Quels sont les outils disponibles pour évaluer l'eau existante et puis pour optimiser son utilisation en considérant aussi les grands écarts qui ont été évoqués par nos deux spécialistes à l'instant?
Alors, bonjour, pardon, et merci pour l'invitation. Ce qu'il faut bien comprendre, s'agissant des infravertes, c'est qu'on est devant un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence du quotidien. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu des événements. Dans une semaine, il y en aura probablement quelque part dans le monde. Donc on est devant un paradoxe qui fait qu'il faut faire vite, mais avec un rythme d'action qui est celui des services fondés sur la nature, le rythme de la nature. C'est-à-dire qu'entre le jour où vous plantez un arbre et le jour où vous comptez sur cet arbre pour délivrer des services, il va se passer pas moins de 10 ou 20 ans. Donc, partant de là, vous avez moins le droit de vous tromper. Vous avez moins le droit de vous tromper et vous avez un autre effet de bord qui est que quand vous allez mettre en place cette infrastructure pour qu'elle, par exemple, aide à gérer l'eau de là, vous avez besoin de vérifier a priori que vous allez être en capacité de gérer l'eau à l'endroit où la plantation est faite. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de l'art est relativement dépourvu au moment où vous plantez votre arbre, pour savoir quels en seront les effets dans 10 ans, dans 20 ans. Donc ça fait émerger un besoin d'outils de mesure, voilà, assez simplement. Et donc c'est effectivement notre activité, notre boulot. Donc aujourd'hui, les capteurs qui permettent de récupérer tout un tas d'informations sur la nature en ville peuvent aller de ce qui se passe dans la terre avec par exemple des capteurs d'humidité un peu spécifiques qui nous permettent de détecter la croissance des racines et savoir du coup quel est l'état de développement de jeunes plantations. Ça permet aussi évidemment de réduire des consommations en eau sur des terrains de sport et par exemple on a une autre catégorie de capteurs qui va être dans les branches, être en capacité de mesurer la bonne santé des végétaux. Donc les choses avancent. Rapidement et donc aujourd'hui la donnée dans les années qui viennent ne seront plus un facteur limitant pour comprendre les infravertes. Le prochain défi qui va être devant nous, ça va être de transformer ces flux de data massifs en informations utiles aux acteurs du territoire et c'est pour nous la suite du combat à mener là.
Eh bien justement, vous avez cité le mot, les services fondés sur la nature, les solutions fondées sur la nature qui sont dérivées des travaux du Millennium Ecosystem Assessment. Il n'y a pas eu qu'un bug redouté qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. En l'an 2000, il y avait ces travaux-là pour adapter la ville au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Certains parlent d'infrastructures vertes. Vous l'avez évoqué puisque c'était dans le titre de l'émission. Et je me tourne vers Jean-Marc Bouillon puisque Intelligence Nature, c'est comment est-ce qu'on peut tirer un maximum parti de l'intelligence de la nature dans toutes ses composantes pour transformer la ville. Quelle est votre définition, Jean-Marc, des infrastructures vertes?
Alors d'abord, dire qu'aujourd'hui, infrastructure verte, c'est presque rentré dans le langage commun, alors qu'à l'origine, c'était assez compliqué parce que c'était des mots qu'on associait pas du tout. Moi, je faisais partie des premiers à le dire et je me faisais mal voir en tant que président de la Fédération française du paysage, dire non, le paysage, c'est pas que de l'infrastructure, etc. Pour autant, à partir du moment où on confie à la nature des responsabilités techniques pour nous aider à mieux vivre, on peut parler d'infrastructure verte. C'est peut-être là que se situe la définition. C'est comment, grâce à la nature, on arrive à mitiger ce qui nous arrive pour arriver à créer des conditions de vie qui sont agréables. Alors, cette infrastructure verte, elle va utiliser le plus possible toute la collection de services fournis par la nature qui sont très bien décrites dans ce gros programme de recherche Nature for Cities. On parle de 60 typologies de services écosystémiques à notre disposition, plus ou moins gratuitement, mais elle renvoie à une autre particularité de cette nature infrastructure et qui légitime complètement l'arrivée de start-up comme UrbaSense. C'est que c'est une infrastructure d'un genre nouveau parce qu'elle est vivante. Donc elle peut tout d'un coup être malade et elle peut dépérir. et donc arrêter de fournir la prestation. Donc il s'agit aujourd'hui d'arriver à bâtir toute une collection de monitoring qui nous permette de comprendre et d'anticiper ce qui va arriver de façon à éviter que ça arrive. Parce que comme Mickaël le rappelait très bien, le cycle d'installation de cette infrastructure étant assez long, il ne s'agit pas de rater trop de coûts. Parce que derrière, cette protection qu'on aura su bâtir ensemble peut disparaître d'un coup à l'autre. Je vous donne un exemple qui est assez catastrophique pour ceux qui le connaissent quand ils vont dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Là, ce n'est pas un problème climatique, c'est une bactérie qui a tué la plupart des oliviers. Et ça change complètement la structure sociale d'une région. Donc c'est un peu ça le risque. Donc l'infrastructure verte, définition, c'est comment utiliser les services fournis par la nature pour doter nos villes d'un nouvel équipement qui va faire que notre cadre de vie va devenir plus agréable.
Alors, vous le disiez, Mickaël, tout à l'heure, les données sont plus nombreuses que jamais et elles sont amenées, leur quantité à croître, leur pertinence aussi. L'intelligence, c'est aussi... Alors, en toute simplicité, hein, c'est pas qu'un mot prétentieux, la capacité à faire la synthèse de tout ça. Est-ce qu'on ne demande pas parfois, c'est une question pour vous Jean-Marc, des injonctions très contradictoires, et est-ce qu'on ne demande pas trop à ces fameuses infrastructures vertes? Parce que on peut avoir des données, des sorties servicielles, permettre une meilleure infiltration des eaux, rafraîchir, on entend souvent ça, parfois de manière assez grossière d'ailleurs, sans trop considérer l'eau et le sol. Il y a ce volet technique, on va dire, serviciel. Il y a aussi un volet social, vous l'avez évoqué à l'instant, que ce soit dans les activités économiques, que ce soit dans ce qu'on appelle les expériences de nature, le lien individuel, mais aussi le lien collectif, ce médiateur que peuvent être les espaces dits de nature. Et puis, on a enfin... Last but not least, le sujet de la biodiversité, et parfois l'injonction est extrêmement forte. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que ce sont les mêmes trames, entre guillemets, par exemple, entre une trame infrastructure verte de rafraîchissement ou d'infiltration ralentie des eaux et une trame verte et bleue au sens des écologues?
Bah, pas toujours, non.
Et rapprochez-vous du micro, on n'a pas entendu votre réponse.
Oui, pas toujours. Et effectivement, il faut faire un petit peu attention à ça. Il ne faudrait pas que... à cause de cette multiplicité des services rendus par la nature, que des silos techniques ne se créent dans les différentes natures de services. Vous en avez oublié un, Pierre, dans les services, c'est le rapport entre la nature et l'anxiété, et le médical.
Tout le volet santé, absolument.
Le volet santé qui est important. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si on travaille la question de la nature en ville sous l'angle de la biodiversité, on va plutôt avoir une logique de réservoir de biodiversité, donc des forêts, qu'on va relier entre elles par des corridors. Donc c'est des endroits massifs, de façon à ce que par la taille, une forme de biodiversité naturelle puisse s'installer et entretenir le dispositif. Donc vous imaginez des endroits ramassés, reliés par des corridors, c'est les trames vertes et bleues, etc. Si on s'intéresse à la nature comme un élément important d'adaptation de la ville au réchauffement climatique, on va plutôt être dans une logique de saupoudrage. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre un arbre au plus près de chacun. Parce que franchement, si on fait une forêt à un endroit, ben, évidemment, ceux qui vont habiter au bord de la forêt vont avoir des effets bénéfiques. Mais ceux qui habitent trois rues plus loin, si on ne plante pas d'arbres dans leur rue, ils vont continuer ils vont progressivement avoir un univers de moins en moins supportable. Donc vous voyez, on est dans une logique biodiversité plutôt de zones ramassées, forêt, corridor, et dans l'adaptation de la ville, on a plutôt une volonté de saupoudrer. Il y a un autre paradoxe, c'est que on parlait de l'eau, tout vient de l'eau. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut arrêter d'infiltrer, arrêter de collecter l'eau de pluie, hein, pas les autres, l'eau de pluie et de le mettre dans les réseaux au profit d'une infiltration de surface? Et est-ce que cette infiltration, elle donne un résultat si on l'étudie à l'échelle d'une agglo, par exemple? Nous, on le fait. Et on le fait avec le fameux hydrologue dont Pierre parlait, et on l'étudie notamment sur le Blois. Et quand on étudie la capacité d'infiltration de chaque parcelle cadastrale de l'ensemble d'une agglomération, et on lui donne un indice de facilité, ça va être très facile, facile, moyennement facile, difficile à infiltrer, on s'aperçoit que 70% de nos villes sont remédiables. C'est-à-dire que dans 70% des cas, l'infiltration serait une réponse. Donc c'est extraordinaire parce que là, ça remettrait de l'eau dans le cycle, dans le petit cycle et dans le grand cycle de l'eau, etc. Mais par contre, comment on arrive à définir ce chiffre ? Par de la lecture algorithmique de pixels de photos aériennes. D'accord ? On zoome, on lit chaque pixel en fonction de la couleur, on donne un attribut. Mais ces algorithmes de lecture, avec la même précision, vont être utilisés pour une autre politique environnementale en ville, ô combien nécessaire aussi, c'est la lutte contre l'étalement urbain. Le zéro artificialisation net. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chasser dans la ville, avec la même précision, toute la chaîne disponible. Où est-ce que se situent les droits à construire ? Et ils vont attraper quel territoire ? Ben, ceux que nous, on vise pour infiltrer. Mais le jour où on va construire sur l'endroit idéal pour infiltrer, on n'infiltrera plus. Ou si, vous voyez, donc il faut faire extrêmement attention à ne pas avoir de lecture silotée. Et de faire en sorte qu'aujourd'hui, alors que nos villes sont remédiables, que le potentiel de réversibilité existe, de le faire ensemble pour pas que l'un, empêche l'autre.
Mmh. Alors justement, les silos, Marie-Christine, vous les connaissez, et pas simplement c'est une boutade agricole, mais vous l'avez connu dans votre expérience professionnelle, tout comme Jean-Marc. On a cité une notion, vous parliez de l'agglomération de Blois, celle de l'échelle. Quand on aborde les questions d'adaptation ou de résilience, je ne me risquerai pas sur les définitions. Et on se dit que chacun, comme le colibri, fait sa part. On désimperméabilise une cour d'école, ici. On installe un jardin de pluie au pied d'un immeuble, là. Alors, le CEREMA, avec lequel Veolia travaille en étroite collaboration, a récemment été missionné pour développer une méthodologie d'identification du potentiel de renaturation. Ça va ? À l'échelle de l'unité urbaine parisienne et a même fait un recueil d'exemples. Alors le rapport, en tous les cas dans sa synthèse, nous dit, je cite, copier-coller les propos, parce que je trouvais ça assez intéressant, les solutions d'adaptation fondées sur la nature n'ont pas forcément d'effet sensible à l'échelle de l'agglomération si elles sont mises en œuvre isolément. La désimperméabilisation d'une seule cour d'école ou d'un parking unique n'aura qu'un effet local de faible ampleur. Alors on parle de plus en plus, en parallèle de cette citation, du terme de ville-éponge. Et ce n'est pas seulement pour Beauvais. D'après vous, quelles sont les échelles d'action pertinentes, Marie-Christine ?
Alors je reviens au point de départ, c'est-à-dire que Jean-Marc a brossé le risque de resiloter. Et en ayant écouté Jean-Marc, en fait, on resilote d'une autre façon par la composante du végétal en fonction des usages qu'on veut y voir. Et les exemples ont été très bien posés. Et en fait, les deux seuls éléments qui unissent les silos et qui les décilotent, si je puis dire, c'est l'eau et le sol. Et donc, au niveau des échelles, c'est là où il faut reprendre, si je puis dire, de la hauteur. Et ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, d'avoir en permanence le double zoom focal, vision de l'aigle et de la tortue. Mais avant tout, ayons la vision de l'aigle. Et donc, la bonne échelle, c'est le bassin versant. Le bassin versant, c'est donc l'échelle du cycle naturel de l'eau, comme je vous le disais. Entre, alors, quand on est en bord de mer, bah, c'est la mer, atmosphère, terre et terre qui ruisselle jusqu'à la mer. Mais un bassin versant, c'est quoi ? Un bassin versant, c'est quand la pluie tombe, elle a une circulation dans un sens et elle va irriguer la terre, elle va s'infiltrer sur le passage et elle va ainsi faire son cycle. Et donc l'échelle du bassin versant est l'échelle homogène au niveau du cycle de l'eau. Donc ça, il faut réapprendre à se mettre à l'échelle du bassin versant. Voir après en zone, en sous-découpage homogène en fonction des tailles de bassins versants, ce qu'on appelle sur les sous-bassins versants. Et d'ailleurs, ça a été pensé depuis longtemps, puisque c'est exactement le modèle des agences de l'eau, qui ont été constituées déjà sur les bassins, les grands bassins hydrographiques français autour des grands fleuves. Et à l'intérieur de ces grands bassins, on a des bassins versants homogènes. Et donc je reprends ce que je disais tout à l'heure, si on a, entre guillemets, plaqué le développement de la ville sans tenir compte des bassins versants, eh bien, on s'expose à ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire que d'un seul coup, on redécouvre finalement que la ville peut être un obstacle au cycle naturel de l'eau. Et donc, pour reprendre l'expression de ce que disait Jean-Marc, attention non pas aussi à ne pas resiloter en décidant, par exemple, d'installer une infrastructure verte à un endroit dans une ville sans tenir compte si la ville n'existait pas ou la topographie, où est le point bas de la ville. Si vous faites une infrastructure verte pour faire une zone tampon en haut de la ville, ça n'a aucun intérêt. Si vous installez, et ça arrive dans beaucoup de villes comme par hasard, mais c'est toujours comme ça, l'hôpital, les sapeurs-pompiers, la station d'épuration, la station service hydrocarbures, tout ça sont en point bas. Quand il y a une inondation, tout le monde est sous l'eau, personne ne sort. Donc en fait, les services essentiels à la ville sont coincés. Donc déjà, on repense. Donc l'échelle essentielle, c'est déjà reprendre de la hauteur à l'échelle cohérente et penser cycle de l'eau, justement. En fait, je pense qu'une des grandes changements de paradigme dans lequel on devrait aller, et ce n'est pas pour prêcher dans selon ma paroisse, c'est juste parce que c'est une réalité qui s'impose à nous. Ce qui unifie et donne une logique territoriale, c'est la logique du cycle de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de végétal. Sans eau, il n'y a pas de vie économique. Sans eau, il n'y a pas de loisirs. Sans eau, il n'y a pas d'infrastructure verte. Et donc, en fait, c'est vraiment le socle clé et c'est l'échelle clé. Après, il y a une deuxième échelle qu'on oublie souvent, c'est l'échelle temporelle. Là aussi, je reprends exemple et attention aux fausses bonnes idées et aux bonnes idées. Les bonnes idées, c'est les idées, ce qu'on appelle aujourd'hui sans regret, qui sont durables. Le bon contre-exemple, c'est qu'on veut plaquer, et Jean-Marc l'a évoqué, on veut plaquer dans la ville de la revégétalisation, de replanter 1000 arbres par-ci, 1000 arbres par-là. Sauf qu'un arbre, il met, comme l'a dit Michael, 10 à 20 ans pour croître. Mais si on plante des arbres au mauvais endroit, qui sont dans peu de sol, dont on a des problèmes de rareté de l'eau, alors qu'il faut arroser beaucoup les 3 premières années, je peux vous dire que c'est un pic de consommation d'eau. Donc ça veut dire que les arbres plantés au mauvais endroit dans peu de sol, la moindre tempête, ils sont tous par terre. Aujourd'hui, on observe dans des villes, et je ne vais pas parler au nom des spécialistes du végétal, mais en tous les cas, on l'observe tous, que quand une ville s'est reconstituée où on a planté des arbres, à l'horizon de 2 ans, s'il y a eu des événements, notamment de sécheresse, un tiers des arbres sont par terre, sont morts, parce qu'ils n'ont pas été irrigués comme il fallait. Donc, en fait, n'oublions pas la temporalité, et donc le monde du vivant, le vivant, il a besoin de temps. Donc, il a besoin de ne pas se tromper sur les idées sans regret, et ne partons pas dans des idées qui sont des fausses bonnes idées, qui, à court terme, en apparence, semblent des bonnes idées, mais qui, finalement, dans la durée, ne sont pas adaptées et résilientes à ce dérèglement qui s'impose à nous.
Alors, Jean-Marc, moi, j'avais envie, m'inspire un mot de Louis Chédid. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building, la caméra zoom arrière. Hein, mm-hmm. C'est l'œil de l'aigle. Je voudrais laisser la parole après à Michael. Jean-Marc, une réaction.
Oui, du coup, j'ai oublié quelle était ma réaction. Alors, c'était... j'ai perdu le fil.
Eh bien, nous allons reprendre le fil. J'ai beaucoup aimé cette expression de l'aigle et de la tortue. Nous pourrions en faire une fable. Et finalement, vous posez bien l'un et l'autre, chacun à votre manière, les problématiques, les leviers d'action à l'échelle assez large. On se dit, c'est un peu SimCity, avec une situation qui est de partir d'un plan vierge, mais ensuite de travailler avec l'existant. Alors, Monsieur Bouillon a retrouvé son mot. Allez-y.
Alors, pour éviter de faire du silotage ou des idées à regret, etc., la meilleure façon de garantir l'installation pérenne de la nature en ville, c'est de compter sur elle ou de composer avec elle le système urbain. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où elle est où sa présence est indispensable au fonctionnement de la ville. Comme par exemple, si on essaye de faire des sols ouverts en creux et de faire passer l'eau de pluie par cet endroit-là, eh ben on va plus pouvoir considérer cette nature en ville comme un potentiel constructible de demain, parce qu'il fera partie du système urbain. C'est à partir de ce moment où on arrive à une ville nature, c'est ça, c'est pas qu'une ville verte, c'est une ville qui refonctionne de façon naturelle en utilisant des cycles naturels.
Voilà. Alors, justement, faire système, dézoomer, on a d'un côté les enjeux et les limites du système urbain actuel. On a de l'autre côté les grands leviers d'action avec la nécessité de voir de manière pluridisciplinaire et de faire système. Entre la tortue et l'aigle, j'ai envie de laisser la parole à l'œil du tigre, c'est-à-dire celui qui observe ce qui existe, et de vous poser cette question difficilement soluble, on le voit bien, mais Michael, vous qui observez la data et qui la rendez intelligible et utilisable, quels sont les leviers d'action concrets que vous observez au fil des chantiers auxquels vous participez, au fil des espaces existants qui sont transformés ou qui subissent parfois des conséquences heureuses de transformation des voiries, de ces infrastructures? Qu'est-ce que vous observez? Et puis ensuite, avant de conclure, une réaction de chacun de nos deux autres intervenants sur comment fait-on avec le déjà là, avec quelques exemples pour qu'on puisse s'y raccrocher.
Alors, ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est que le simple changement de jardin-espace vert à une infra verte qui doit délivrer des services retourne complètement la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savoir, vous voyez devant nous, là, on a de magnifiques alignements de tilleuls. Quelle est la capacité de ces tilleuls à absorber de l'eau tombée ce matin, à la rendre dans l'atmosphère ou à contribuer à une meilleure infiltration? Aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. La science a fait des travaux, mais aujourd'hui, on est à un moment complètement fascinant qui est de passer de l'objet intellectuel infraverte à des chantiers dans la vraie vie avec de la vraie mise en œuvre et où tout commence. Et où, donc là... voilà, les solutions, donc elles sont en train de se mettre en place, elles sont en train de se concevoir en même temps que les projets se conçoivent, mais on est vraiment à un tout début de la réalité de d'une infra verte qui doit se gérer avec le déjà là et avec le à construire. Donc après, là où il ne faudrait pas se tromper, c'est pas en maximisant la quantité de données qu'on va résoudre tous les problèmes. Là-dessus, nous, on a une philosophie qui est assez raisonnable de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut des données, mais il faut surtout prévoir les outils concrets des praticiens, former les praticiens, parce qu'il faut bien voir aussi que des gens qui aujourd'hui gèrent des services techniques, des entreprises, prennent une transformation de leur métier qui est assez considérable. Et donc, il faut accompagner tous ces acteurs-là, et donc à l'appui de données, à l'appui d'informations fiables et mesurées. Et donc, c'est comme ça que tout ça se met en route. Mais voilà, je voulais insister là-dessus. On est vraiment à un tout début pour lequel, heureusement, qu'on a encore des capacités techniques, technologiques pour accompagner le mouvement, parce que c'est pas de trop. Il va falloir encore pas mal œuvrer à bien comprendre la nature existante, les infra existantes, pour pouvoir les gérer au mieux et les concevoir et les construire encore mieux.
Marie-Christine, si vous avez par exemple un site, quelque chose à évoquer de transformation en cours ou de choses qui vont dans le sens de ce que vous évoquiez tout à l'heure, quelle ville, quelle dimension et quel site pour donner un peu de concret?
Oui, alors donc on rentre, comme on l'a dit, dans une nouvelle donne. Donc il faut penser autrement le cycle en changeant de prisme, de regard et en dézoomant. Donc le cycle de l'eau unifie. Je dirais, on parle souvent là de circonstances, on parle du trop d'eau en trop peu de temps, mais je citerai peut-être trois exemples. Donc le trop d'eau en trop peu de temps, il faut le ralentir. Donc là, on a dit les solutions de nature, elles ont cette fonction éponge, cette fonction ralentisseur. Le meilleur exemple que nous avons, c'est la vallée de la Bièvre, avec le syndicat de la Bièvre, qui depuis qu'ont été installées cette régulation hydraulique en réutilisant les solutions de nature et quelque part en changeant de paradigme, au lieu d'avoir des plans d'eau permanents, on a des plans d'eau qui s'ajustent justement pour pouvoir recevoir comme ce matin et anticiper avec les radars météo. Et ensuite, ça fait partie de nos métiers de réguler ces flux hydrauliques pour que ça passe et que ça n'inonde pas. Donc la vallée de la Bièvre, depuis que ça a été mis en place, il y a zéro inondation, alors qu'il est passé plusieurs inondations sur la région parisienne depuis. Donc ça, c'est un exemple pour le trop d'eau en trop peu de temps. Le deuxième exemple, c'est l'inverse. Ça a été évoqué rapidement, c'est la rareté de l'eau. On va aller, c'est clair, dans les conflits d'usage. Plus on va vouloir mettre de végétal, plus on va faire un appel d'eau. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et notamment les 3-4 premières années, ça va être un surcoût. Un surpic de demande en eau, et il suffit que ça coïncide au mauvais moment, au mauvais endroit. Trois années cumulées derrière, on plante le système. Donc là, une des solutions très pratico-pratiques qui fonctionne très bien, et je prendrai l'exemple de Sainte-Maxime en littoral, parce que pourquoi en littoral? Parce qu'en littoral, on a des pressions de conflits d'usage à partir du printemps où tout le monde va au même endroit et on a la mer et puis il fait chaud, comme l'a dit Jean-Marc, et donc on met des arbres. Eh bien, à Sainte-Maxime, on a anticipé en étant très pionnier sur la réutilisation des eaux usées traitées pour justement les usages d'aspersion pour espaces verts, parce qu'en plus on fait effet coup double. Non seulement on est décorrélé de la pluie, on n'a plus besoin d'attendre la pluie. Et deuxièmement, une eau usée traitée, elle est riche, elle a une valeur agronomique et donc elle permet de réduire de 50% les intrants additionnels que l'on achète, et encore plus par les temps qui courent où les flux internationaux sont compliqués en produits chimiques. Il est important pour les spécialistes de la végétation de pouvoir utiliser des intrants naturels. Donc ça, c'est un deuxième exemple, c'est vraiment pousser à fond ces solutions non conventionnelles à nouveau à la bonne échelle. Il n'y a qu'à l'échelle de la ville qu'on peut le traiter pour ensuite redescendre à l'échelle du quartier, voire du bâti. Voilà.
Et justement, c'est vrai que les maîtres d'ouvrage sont publics et sont aussi de plus en plus privés. Il y a les aménageurs qui sont à l'intermédiaire. Et le chacun fait sa part a aussi sa raison d'être. Si vous deviez donner un conseil à et ça c'est une question à la cantonade et ce sera sans doute la dernière, à un maître d'ouvrage qui agit à petite échelle parce qu'il a son précaré dont il est maître. Quelles seraient les quelques indications méthodologiques pour bien réussir sa contribution et participer d'une transformation plus globale qui ne viendra peut-être pas de la puissance publique ou pas assez vite? C'est pas une question simple, Michael.
Moi, j'opterais pour le sol en premier point, c'est-à-dire qu'une des ressources, point de départ de n'importe quel mètre carré, qu'il soit urbain ou pas, c'est le sol, dans sa capacité à aider à la gestion de l'eau en particulier et du vivant en général.
Et je pense que les écologues seront aussi d'accord, de même que les hydrologues, sur la nécessité de composer des sols, pas toujours des sols riches, mais en tous les cas, d'y porter une attention. Le sol, Marie-Christine.
Bah forcément, pour un maître d'ouvrage, de changer d'approche et de ne pas appeler le spécialiste de l'eau en aval quand tout est construit et puis pour juste opérer, mais au contraire en amont, pour étudier à la bonne échelle et voir comment ça s'imbrique à l'échelle du cycle naturel de l'eau, à l'échelle aussi du cycle domestique de l'eau, puisque je l'ai dit avec les eaux usées traitées, et de façon à justement donner de la consistance et pas juste faire une étude à la petite échelle qui finalement à l'arrivée bah sortira des mauvaises solutions si on doit s'adapter, toujours la même chose, à ce dérèglement climatique.
Jean-Marc.
Moi je dirais allez-y parce que c'est important, quelle que soit la taille de votre projet, votre projet va être un élément d'un tout, une pièce d'un puzzle, et il y a urgence à fabriquer le puzzle. Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% du foncier urbain est privé et seulement 20% est public. Donc, si on veut réussir à la fois la préservation de la ressource en eau, l'adaptation de nos villes au réchauffement climatique, il faudra bâtir de nouvelles coopérations entre le public et le privé. C'est une obligation. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête également, c'est que l'ensemble des projets quotidiens que conduit une ville, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, une friche, un lotissement, un bus à haut niveau de service, une cour d'école, un programme Oasis, etc. L'ensemble de ces projets ne renouvellent nos tissus urbains que de 1% par an. Donc, si jamais on compte bâtir nos stratégies d'adaptation en s'hébergeant sur le rythme de ces projets-là, on est parti pour des stratégies en 100 ans, ce qui est évidemment pas le bon rythme par rapport à ce qui va nous arriver. Donc, il faut s'intéresser au déjà-là. Le fameux déjà-là, c'est les 99% de la ville qui n'a pas de projet. Comment est-ce qu'on va mettre en mouvement cette ville qui n'a pas de projet? Et il faut être capable de l'intéresser, il faut être capable de changer là aussi de regard, de changer de forme de projet. Nous, les paysagistes concepteurs, il faut qu'on range un petit peu nos désirs d'excellence, notre volonté de tout réorganiser, etc., pour aller vers des logiques d'acupuncture. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'intervenir très peu à donner quelques petits points d'acupuncture et prendre un site qui fonctionnait mal, qui fonctionne de façon technique, c'est-à-dire j'interceptais toute l'eau et je l'évacuais par des tuyaux, en un site qui infiltre sa propre eau de pluie et qui, grâce à ça et grâce aux plantations qu'on agite, va utiliser les fonctions écosystémiques. C'est ça, la vraie question, c'est comment on additionne les forces du public et les forces du privé et comment on change de regard pour passer de 1% d'adaptation par an par ces nouveaux projets à un rythme de 8 à 9% qui semble être un rythme nettement meilleur.
Eh bien voilà, ce sera le chiffre de la fin, un rythme de 8 à 9% de renouvellement par an plutôt que le 1% que vous évoquiez, Jean-Marc. Nous avons fait un tour d'horizon, nous avons non pas chanté sous la pluie, mais nous avons évoqué ces cycles, ces petits, ces grands cycles de l'eau, avec la nécessité, on l'a bien compris, d'avoir une vision globale, d'anticiper le sujet de l'eau et de ne pas le faire uniquement en aval, d'avoir des grands projets, des grands dessins, EIN, avec un S évidemment, à l'échelle d'une collectivité, en mobilisant public et privé, et puis aussi d'avoir des touches locales qui vont bénéficier à celles et ceux qui vivent de plein fouet ce dérèglement climatique avec cette notion d'acupuncture. Et j'ai envie de faire référence aux propos du docteur Gérard Lorimier, qui est chirurgien cancérologue et qui, dans une autre émission de ce cycle Ville Nature, nous parlait du biotope des êtres humains comme étant une composante essentielle de leur mieux-être, ce bien-être qui est composante clé de la santé, qui n'est pas uniquement l'absence de maladie. Bien, on le voit bien avec ce que vous dites. Nous avons du curatif à opérer et la tâche est immense, mais aussi une prévention dans cette ville en agissant à la grande échelle et aussi public, privé, petite ou grande échelle, par acupuncture, en faisant attention à ce fameux biotope. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci au public d'être venu nous rencontrer sous une pluie battante. Le soleil, lui. Cité Verte Europe est une initiative portée par le soutien de l'Union européenne, par le truchement de l'interprofession Valor, le végétal, les fleurs et le paysage. Bonne journée à toutes et à tous. Générique.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.